بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Chefs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal, le très clément, le très miséricordieux, qui nous donne la possibilité ce soir de nous asseoir quelques instants pour étudier une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour rappel, nous étions depuis quelques mois dans l'étude du chapitre de Bab al-Taqwa, le chapitre concernant la piété. Et la dernière fois, le dernier lundi, on a fait le dard sur dans Riyad al-Salihin, on avait vu ce fameux hadith de lequel le prophète alayhi salatu wassalam met en garde le croyant contre les pièges de ce dunya, les pièges de ce monde qui est verdoyant, ce monde qui est attirant, ce monde qui répond parfois à l'attente de l'être humain. Mais le prophète alayhi salatu wassalam rappelle au croyant que ce n'est pas là la finalité et le but de notre création. Et les métaphores, les exemples qui avaient été utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam étaient tout simplement magnifiques. Les hadiths, comme on l'avait rappelé, c'est l'inspiration de la part d'Allah Azza wa Jal. Car le prophète alayhi salatu wassalam ne prononce jamais une parole qui vient de lui-même. D'où le verset « وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » Tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, cela vient d'Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith avec les termes qui étaient propres au usloub nabawi, à la façon que le prophète s'exprimait, cela vient de notre Seigneur. Et en conclusion, on avait dit que celui qui a créé l'être humain, celui qui a créé les biens de ce monde, qui a créé les plaisirs de ce monde, c'est lui qui connaît mieux les faiblesses de l'homme. Celui qui nous a créés, il sait pertinemment quelles sont nos faiblesses et vers quoi nous penchons et comment est-ce que ces biens de ce monde peuvent détourner une personne du droit chemin, d'où la mise en garde. Et dans cette relation avec les plaisirs de ce dunya, c'est là qu'on voit vraiment l'installation de la foi. Quelle place le iman, quelle place la foi prend-elle dans notre vie? Comment est-ce que la foi s'est installée dans notre cœur et comment est-ce que ce iman dirige notre corps? Est-ce que nous allons vers ce que nos yeux contemplent? Est-ce que nous allons vers ce que nos oreilles aiment écouter? Est-ce que nous allons vers nos pulsions, nos shahawat, nos hawa? Ou alors, on arrive à rester vigilant et à mettre en avant la piété, la taqwa, pour rester dans les limites du halal et du haram? C'est là un grand combat. Et un des combats les plus difficiles, c'est le fitna de ce dunya, mais également le fitna tun nisa qui a été cité également dans le hadith. Et craignez les fitna, les péchés qui peuvent venir de l'excès de passion, de la faiblesse de l'homme par rapport aux femmes. Et on avait dit, enfin ça peut-être qu'on n'avait pas suffisamment développé, que dans les trois religions révélées par Allah Azza wa Jal, les trois religions monothéistes, le judaïsme, le yahoudiya, les nasraniya, dans la religion chrétienne, catholique, mais surtout dans l'islam, dans ces trois religions révélées par Allah Azza wa Jal, le zina, l'adultère et haram. Ça fait partie des péchés communs. En fait, tous les péchés sont communs. Les bonnes œuvres sont communes. Tout ce qui est bon dans l'islam, théoriquement, on le retrouve. L'aumône, le respect envers les parents, ainsi de suite, tous les ibadas, on les retrouve dans les livres révélés avant. Et tout ce qui était interdit également, parce que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Et donc le zina, l'adultère, même si à notre époque, dans notre société, on essaie d'oublier ce terme, on essaie de guider malheureusement, ou plutôt de dévier nos jeunes vers ce qu'on appelle une émancipation sexuelle pour qu'on mette de côté ce qu'eux ils appellent des tabous, mais ce que nous appelons le haram. Ce que nous appelons le haram, ce qu'Allah a décrété interdit, et dans d'autres termes, certains disent que ce sont des tabous qu'il faut, chasser, il faut plus tenir compte de ces tabous, ben, ces personnes doivent réaliser que dans la religion pratiquée par le père, par le grand-père, par leur arrière-grand-père, ben ce genre d'action était haram de toute façon. Le zina, c'est quelque chose qui détruit l'homme. Parce que l'homme qui suit ses passions, l'homme qui a un penchant pour les femmes, tout le monde a un penchant pour les femmes, mais faisons en sorte que notre penchant soit pour notre épouse. Que nous ne devenions pas des, je ne veux pas trop utiliser le terme, mais des prédateurs, hein, des prédateurs, des chasseurs, où on ne pense qu'à séduire. Parce qu'il y a malheureusement une maladie spirituelle qui s'apparente à Hubbun Nissa. Lorsque l'homme aime trop les femmes, ben, à un moment donné, il ne se contente pas de son épouse. Il va toujours chercher à séduire. Et dans cette spirale, la personne oublie complètement les limites entre le halal et le haram. Et cette personne devient esclave de lui-même. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Ça, c'est la pire des choses. Et dans d'autres versets, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. C'est-à-dire qu'à force de suivre ce qu'on a envie de faire, ce jeu de séduction, d'avoir toujours une femme différente auprès de nous, et ainsi de suite, ben, à un moment donné, notre hawa, nos pulsions deviennent comme une divinité. Parce qu'on suit, on l'obéit chaque fois qu'il nous demande quelque chose. Donc l'adultère détruit l'homme psychologiquement parce qu'il devient faible et parce qu'il devient vacillant. Il ne trouve pas de stabilité. C'est quelqu'un qui aura du mal un jour à se stabiliser par les liens du mariage. Un coureur de jupons, voilà. On voulait trouver un terme un peu moins cru que prédateur sexuel, d'accord. Un coureur de jupons aura du mal à se stabiliser un jour, à se stabiliser dans les liens du mariage. C'est-à-dire que si cette maladie spirituelle pénètre le cœur, cela affaiblit l'homme et il ne trouve pas la stabilité psychologique ni de stabilité dans sa famille. Également, cela détruit, on parlait de famille, cela détruit les familles. Combien de couples ont été secoués, combien de couples ont été mis en danger par un regard ou par une séduction, par une personne qui a fait intrusion ou la faiblesse de l'homme ou de la femme. Et quand cela détruit le couple, cela détruit également les enfants, cela détruit les familles. Donc vous savez, quand le prophète sallam nous met en garde contre quelque chose, c'est qu'il y a un bien pour nous dedans. Même si on n'arrive pas parfois à réaliser, parce que nous sommes très souvent influencés par les valeurs qui sont prônées autour de nous. Et si nos valeurs, si on devait prendre les valeurs qu'on entend à la télé, à la radio, personne n'écoute plus la radio, mais ou qu'on lit sur internet, ainsi de suite, ben Allah musta'an, il n'y aurait plus rien de digne dans notre vie. Il n'y aurait plus cette fitra qui penche, qui tend vers le bien. Allah musta'an. Donc, ikhwani fillah, même si par rapport aux valeurs qui sont véhiculées autour de nous, on a du mal à comprendre le fait que le prophète alayhi salat wa salam nous met en garde contre la femme, ben on doit réaliser que la solution, al-hal, ce que l'islam nous propose, c'est le nikah, le mariage, et qu'en dehors des liens du mariage, l'homme se doit de se préserver. Pour son bien, pour sa foi, pour sa stabilité, pour son couple, pour ses enfants, pour sa famille, et pour les relations entre les croyants. Parce que celui qui va prendre la femme d'une autre, il va créer des conflits avec une autre kabila, une autre tribu, une autre famille, avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Et cela va toucher au izza, à l'honneur de cette famille et de l'autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un fléau, wallahu musta'an. Et pourquoi est-ce qu'on insiste sur ce péché? Parce que à chaque fois que vous allumez la télé, que vous regardiez un dessin animé, une série, à travers ces feuilletons, ces séries et ces films, ben, y a toujours une intrigue amoureuse. Et l'intrigue amoureuse, ça ne concerne pas deux personnes qui ont fait le mariage, nikah avec témoins et tout ce qu'il faut. Il y a toujours une intrigue. Regardez principalement les séries. Qu'est-ce qui attire le plus de gens? Les mamans. Qui c'est qui regarde les séries brésiliennes? Je dis brésiliennes parce que j'entends, alhamdoulilah, on est épargné de ça. Ou les séries américaines. Comme là, avant, il y avait Dallas, il y avait... Et ainsi de suite. Une époque, khairan, inshallah. Mais qui c'est qui regarde ça en priorité? Ce sont les mamans, oui ou non? Et quand les mamans regardent, leurs filles regardent, oui ou non? Et ces jeunes filles qui grandissent, et elles vont, qu'on le veuille ou non, à force de regarder quelque chose, À force d'écouter quelque chose, la valeur de cette chose pénètre le cœur. Et du coup, ta conception, la conception de l'amour de cette jeune fille qui grandit, ce sera la conception qui est véhiculée à travers ces séries. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un petit copain et de changer quand on veut. Et même si on a fait le tour du quartier, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est la liberté. On doit faire extrêmement attention. Il n'y a rien qui détruit un être humain. Son cœur, sa foi, sa personne, sa stabilité, sa famille, ses enfants et la relation au sein de la Ummah, il n'y a rien de plus grave que l'adultère, que les zina. Ce n'est pas pour rien si dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit Wala taqrabu. Allah n'a pas dit Wala taznu. Allah n'a pas dit n'accomplissez pas l'adultère, ne vous approchez pas. Parce que je regardais quelque chose il y a deux jours. J'étais en train de cuisiner, ça m'arrive. Très rarement, alhamdoulilah, c'était pas compliqué, je faisais des mines, Apollo, mettre dedans et puis bref. Il y avait un feu et il y avait un papillon qui tournait autour. Et je me suis rappelé du proverbe, le papillon qui se brûle les ailes. Et le papillon était attiré par le feu. Et je le regardais, je ne vais pas le protéger, je ne vais pas payer pour ça. Je le regardais tourner autour du feu et tellement qu'il s'approchait qu'il s'est brûlé les ailes. Et il est tombé raide mort. Je me suis dit que, subhanallah, voilà un exemple. En décalage, mais l'adultère, c'est pareil. C'est attirant. Tu vois cette belle jeune fille qui a une façon de marcher, de parler, qui se parfume, et ainsi de suite. Et on se dit que non, juste, on discute. Peut-être que par la suite, on pourra faire le nikah. Peut-être que par la suite, on va se marier dans le halal. On aura une famille, mashallah, fi ta'a, de l'obéissance, et ainsi de suite. Tu t'approches. Tu es comme le papillon, tu t'approches trop près, mon frère. Attention à tes ailes. Et tu te brûles et tu tombes et tu te rends compte que quand tu mets le nez, quand tu mets un pied dans le cercle vicieux, dans le sens propre et figuré, dans ce cercle vicieux qui est le zina, l'adultère, on a beaucoup de mal à s'en sortir. On a beaucoup de mal à s'en sortir parce que le taubatun nasuha, pour qu'il soit nasuha, qu'il soit accepté, il doit être sincère, on doit regretter. Et ceux qui ont goûté à ce plaisir, très, très, très difficile par la suite de s'éloigner. Et quand quelqu'un a goûté à ce plaisir durant toute sa jeunesse, depuis l'âge de 14 ans, il sort avec des filles jusqu'à l'âge de 22 ans. Et à 22 ans, comme on dit, il se range. C'est-à-dire qu'il se range et il devient sage. D'accord ? Là, il veut... Là, c'est malin encore, ça, c'est ces bonhommes-là. Regardez comment ils sont machos. Il sort avec... une 18 ou une vingtaine de filles durant sa jeunesse, et lorsqu'il se marie, il dit « Ah non, moi je veux une fille qui est de bonne famille, une fille qui est sérieuse, qui est religieuse, qui n'est jamais sortie avec quelqu'un. » Alors donc, toi tu as fait la fête avec toutes les filles du quartier, tu les as visitées comme il ne fallait pas, et après pour ton mariage, par contre, il te faut quelqu'un, il te faut une marchandise encore, sous emballage. Mais quelle hypocrisie! Ici, par mes gardes, on apprend que cette fille avait un passé, et ainsi de suite. On est révolté. Comment est-ce possible? Ça, c'est Waylul lil mutaffifin. Vous vous rappelez du sens du tafsir Waylul lil mutaffifin? C'est pas uniquement celui qui triche dans les poids et les mesures. C'est celui qui exige, qui a des exigences concernant sa propre personne. Mais quand il s'agit d'avoir le même comportement envers les autres, il ne se préoccupe pas. Le concernant, il faut que les choses soient clean, soient correctes, il doit avoir quelque chose de pur. Mais quand il a, lui, des relations avec les gens, ben c'est la pire des personnes, le pire des comportements. Donc, ce jeune qui a grandi dans l'adultère, ben, je vous assure, lorsque la personne se marie et qu'il doit prendre l'habitude maintenant de rester avec sa femme et il n'a pas le droit de regarder une autre femme, c'est extrêmement difficile. Un jeune qui a connu tous ces tourments, ben, son couple aura beaucoup plus de mal à trouver la stabilité. La fidélité au sein du couple est mise en péril. Donc pour éviter tout ça, pour éviter une vie familiale qui risque de se fracasser, se préserver. Et quelle est la meilleure façon, Nabil, de se préserver? C'est facile, c'est pas facile ça. Pas facile. C'est pas évident. Préserver le regard. Je mettais de l'ordre dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Ma boîte aux lettres, c'est quelque chose. D'accord? J'ai retrouvé les dépliants publicitaires de Noël 2015. Je suis en train de tirer les élections et ainsi de suite. Bref, j'avais 50 cm de trucs publicitaires. Tous les trois publicités, il y a une femme qui est à moitié nue. Pour vendre des boîtes de conserve, pour vendre un pot de peinture, pour vendre des petits pois. On est dans quelle société, Allah Musta'an? Le Raddul Basar, le contrôle du regard, qu'Allah nous accorde cette faculté et que cela devienne non pas un automatisme, mais une réaction de foi. C'est pas on ne regarde pas parce que c'est haram, on ne regarde pas parce qu'on sait qu'Allah nous observe et on ne peut pas décevoir Allah. Waouh, c'est autre chose. Cette chose entre al-man'u wa al-imtina'. Le fait de dire que c'est haram, c'est pas bon, tu fais pas. Alhamdulillah, tu t'es éloigné, c'est bien. Mais celui qui se persuade qu'il ne doit pas le faire parce que tu peux pas décevoir ton créateur parce que tu as al-haya min Allah. Tu as honte du regard qu'Allah pose sur toi au moment où tu es dans le péché. Et tu te dis que regarde tout ce qu'Allah m'a donné, tous les bienfaits qu'Allah m'a accordés. Comment est-ce que je peux dilapider ces bienfaits dans le haram? Comment est-ce que je peux désobéir volontairement notre Monseigneur? Ça, c'est la belle réaction de foi. Ça, c'est le mu'min intelligent. Et celui qui a adopté ce mécanisme de foi, il ne sombre pas dans le haram. Il contrôlera son regard et il n'y aura aucune défaillance. Même s'il va en France, à Paris, il va habiter je ne sais où, s'il est dans un internat, dans l'université, dans les logements, ainsi de suite, où il est entouré de filles et tout, il restera sur Sirat al-Mustaqim parce qu'intérieurement, il sait qu'il a le regard d'Allah sur lui. Ce n'est pas qu'il ne fait pas de bêtises parce que les gens le voient ou parce que dans la société, il y a un code de conduite ou pour l'honneur de mes parents, de mes grands-parents, il ne faut pas que je les déçoive. Non, parce que si ce sont là tes mawani', si ce sont ça, c'est les facteurs qui t'empêchent d'aller vers le haram, quand il n'y aura plus ces facteurs-là, les portes seront grandes ouvertes. Alors que le vrai mu'min, il s'empêche lui-même parce qu'il sait qu'il a le regard d'Allah sur lui. Ça, c'est le degré qu'on doit atteindre. Et ça, c'est le ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Tu adores Allah comme si que tu vois Allah, comme si tu es conscient que tu es devant ton Seigneur, tu es en face de lui. Et quand tu es devant Allah, est-ce que tu peux le désobéir? Exemple bête, hein, un élève qui est devant son professeur, quoique de nos jours les élèves sont un peu spéciaux, un élève qui est en face de son professeur, est-ce qu'il va tricher? Est-ce qu'il va faire des bêtises? Est-ce qu'il va prendre son GSM, il va parler? Est-ce qu'il va écouter de la musique? Non! Il le fera à la récréation, il le fera ailleurs, mais quand il est en face du professeur, il ne le fait pas, et ainsi de suite, avec les parents, avec le directeur, avec notre patron, et ainsi de suite. Ben, subhanallah, imaginez qu'on arrive à ce degré spirituel, que notre foi, elle est tellement renforcée, qu'on a presque l'impression qu'on est devant Allah. On réalise qu'on est devant Allah, parce qu'on est toujours devant le regard d'Allah, et que de cette façon, jamais tu ne déçois ton Seigneur face au péché, et dans les bonnes œuvres, tu arrives à t'appliquer au maximum. Imaginez le degré de nos prières. Regardez les sahabas. Eux, ils avaient tous atteint le ihsan. C'est pour ça que leur iman, leur salat, leur zikrullah, le moindre, chaque acte d'adoration des sahabas, ça atteignait le summum. Et l'éloignement du haram pour eux, c'était quelque chose de tout à fait normal. Qu'Allah nous accorde cette qualité, ikhwani fillah. On va essayer aujourd'hui, on s'est un petit peu attardé sur le récapitulatif du hadith, parce que c'est un hadith vraiment magnifique, et qu'Allah protège, je reviens dessus encore une fois, qu'Allah protège notre jeunesse du zina, qu'Allah protège nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, et qu'Allah les garde sur le droit chemin, et que chaque jeune homme qui a envie de se marier, ben, que cette personne trouve avec grande facilité l'âme sœur, comme on dit, la personne qui lui convient et qui lui permettra d'avancer spirituellement. Le mariage doit normalement permettre aux croyants de compléter sa foi. De quelle façon? De deux façons. Premièrement, en étant marié, on n'a plus de risque de sombrer dans l'adultère. Oui ou non? Ça, c'est normalement, si on respecte les liens du mariage. D'accord? Très souvent, on entend dans notre société ce fameux discours sur le respect de la femme. Le mu'min, le musulman, c'est le champion, pas le champion, le champion des champions, Champions League, le champion des champions de ceux qui respectent les femmes. Parce que un homme n'a pas le droit de regarder avec pulsion, avec shahwa, avec désir, une femme qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que c'est pour Allah on le fait, et ensuite par respect pour ton épouse. Allah te l'a accordé. Pourquoi tu regardes quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que tu vas t'aventurer avec quelqu'un d'autre? Le respect, là, hein, c'est pas uniquement les paroles, le respect, c'est dans la dignité. Le fait que jamais tu ne tiendras un discours qui a pour but de, entre guillemets, de draguer ou d'avoir les faveurs d'une autre femme alors que tu es marié, c'est une preuve que tu as du respect pour l'intégrité, pour la personne de ton épouse. Que je suis lié à cette personne, je ne peux pas tromper cette personne. On ne parle pas de l'adultère, mais je ne peux même pas tromper la personne par le regard ou par les paroles ou par un quelconque gestuel. Ça, c'est le vrai respect de l'intégrité de la femme. On ne va pas s'étaler, mais vraiment qu'Allah protège nos jeunes et qu'Allah leur accorde. Oui, comme on a dit, le mariage nous permet de compléter la foi parce qu'on a pu, on ne penche plus vers le zina normalement. Et également, le jeune couple, ils vont faire preuve de ta'awun ala al-birri wa taqwa. Et tawassaw bil-haq et tawassaw bil-sabr. Ils vont avancer mutuellement vers la vérité, vers la patience, et ils vont s'entraider dans le droit chemin. Un couple de croyants, c'est un couple qui avance vers Allah yawm ba'da yawm, jour après jour. Ça, c'est un couple najih. Ça, c'est un couple qui avance, et c'est dans ce couple-là qu'il y aura la bénédiction, qu'il y aura la baraka. On essaie d'avancer. Le hadith suivant, c'est le hadith numéro 71. An Abi Mas'ud. ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حديث rapporté par مسلم. On relit le hadith. Le prophète avait l'habitude de dire اللهم, de demander ce dua, اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Tout le monde connaît ce dua. Celui qui ne connaît pas, qu'il le répète avec nous. Au moins, on aura mis cette sunna en pratique. Ça faisait partie des formules que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de prononcer. Et on va essayer de parcourir un petit peu le sens de ces 1, 2, 3, 4 invocations, les quatre entités que le prophète a demandé. Et on va se rendre compte que c'est suffisant pour combler notre vie de ce dunya du akhirah. Parce que les du'as du prophète alayhi salatu wassalam, ce sont les meilleurs des du'as. Quand le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah quelque chose par une formulation qui lui est propre, c'est la meilleure des formulations pour l'ensemble de l'humanité jusqu'au qiyam. De même que quand le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, le durud, comme on appelle salat ala nabi, et il y a d'autres personnes, il y a des gens parfois qui inventent. Il n'y a pas de mal, ce n'est pas un péché, mais qui écrivent d'autres formules. « Oh Allah, envoie tes salutations sur le prophète, autant de gouttes d'eau, autant de gouttes de pluie qui tombent. Autant... » C'est bien, mais ça ne remplacera jamais la formulation de Al-Habib, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que s'il y avait une formulation qui était meilleure, qui nous serait plus profitable, le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous l'aurait enseigner, parce qu'il voulait toujours ce qu'il y a de mieux pour sa umma. Restons simples, restons sur le modèle prophétique, restons sur des formulations qu'on peut mémoriser, qui ne sont pas très longues, mais que nous comprenons le sens. Ce doua, il faut 7 secondes pour le lire. Mais celui qui le lit, même celui qui le lit 100 fois, c'est bien, mais celui qui le lit une fois en comprenant le sens, en ressentant ces 4 choses, c'est un autre niveau. Parce que là, vraiment, il réalise qu'il demande, qu'il s'adresse à Allah Azza wa Jal, et non pas il est en train de réciter une formule qu'il a apprise par cœur. L'islam, ce n'est pas une religion du par cœur. Vous êtes d'accord avec moi? L'islam n'est pas une religion de rituel, ni un héritage culturel, ni une religion où on récite des prières par cœur. Vous dites que oui, mais le Hafidh al-Qur'an, il ne récite pas par cœur. Oui, mais... Celui qui pense que être hafiz al-Qur'an, c'est uniquement mémoriser et réciter, il se trompe d'objectif. S'il pense que le but, c'est juste de connaître par cœur, de réciter, et qu'il n'a pas compris qu'avec la mémorisation et la récitation, il faut l'étude, la compréhension, la méditation sur le sens des versets pour les mettre en pratique dans notre vie, c'est un hafiz qui n'a pas compris l'objectif du wahi. Donc, le doua, on va le lire pour ceux qui ne le mémorisent pas. Allahumma, inni as'aluka, الهدى والتقى والعفاف والغنى. دعاء d'une grande simplicité que le prophète عليه الصلاة والسلام demandait régulièrement. Alors, quel est le sens, premièrement, de الهدى? اللهم إني أسألك, oh Allah, je te demande. Donc, ça, c'est plus facile. C'est le plus simple. Alors, الهدى, quand je dis الهدى, vous voyez un mot où il y a des termes qui se rapprochent de Huda, une racine commune à الهدى? Hein? Houd, non, pas exactement. Quand vous avez dit Houd, j'ai dit Yahri. Hein? Ihdina. Et le mot Al-Hidayah, la guider. Al-Hidayah. Le prophète alayhi salatu wassalam demandait régulièrement à Allah Azza wa Jal la guider et la istiqam, le fait de rester dans le droit chemin. Et il y a un autre sens donné par le muhaddithin, Al-Huda huna bima'na al-ilm. Wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muhtajun ila al-ilm ka ghayrihi min an-nas. Dans ce contexte, parce qu'il y a des fois où le Al-Huda est cité avec d'autres termes, et donc là ça prend un certain sens, mais dans ce hadith, il y a bien sûr le sens général, la guider, mais plus précisément, les muhadithin disent que « bima'na al-ilm », le prophète demandait à Allah Azza wa Jal de lui accorder la connaissance. Mais ça se rejoint, la connaissance qui amène vers la clairvoyance. Quand tu connais, tu sais où mettre les pieds. Et quand tu sais où mettre les pieds et où ne pas mettre les pieds, tu es bien guidé. Tu es dans la hidayah. Contrairement à celui qui ne connaît rien, qui avance aveuglement et qui se cogne, qui trébuche et qui se perd. Abdalal. Alors que celui qui a le ilm, qui a la connaissance, il voit. Il connaît les ordres d'Allah, il connaît les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et de cette façon, la personne avance de façon éclairée à la bayyina. Il sait exactement ce qu'il faut faire et il est sur la hidayah, sur la guidée. Wal-huda, comme on a dit, bima'na al-ilm, est preuve que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même demandait à Allah azza wa jal le ilm, plus de connaissances encore, alors que c'était le plus... kana a'lamun nas, c'était l'homme qui avait le plus de connaissances. Parmi tous les êtres humains, le ilm, la connaissance du prophète alayhi salam, dépassait de loin la connaissance de Moussa alayhi salam. La connaissance de Isa alayhi salam, de Nuh, de Ibrahim, de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Et dans la surah Taha, Allah Azza wa Jal nous enseigne ce dua wa qur rabbi zidni ilma. Et dit oh Allah, augmente ma connaissance. Ça doit être une invocation régulière du croyant, demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder la connaissance religieuse, de nous accorder une connaissance qui nous sera profitable. Et ce genre de doua, c'est une connaissance qui est profitable. Vaut mieux apprendre des choses simples qu'on pourra mettre en pratique immédiatement, plutôt que d'écouter un conférencier qui va vous parler de... Il va vous tenir un discours tellement éloquent qu'en finalité, vous ressortez, vous allez dire « Waouh, il a bien parlé le conférencier. Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Je ne sais pas, mais c'était bien dit. » Je sais pas, mais c'était super. Parce que les gens intelligents, j'ai vu, ils comprenaient. Donc, waouh, c'était une assemblée extraordinaire. Ya akhi, qu'est-ce que tu as profité? Vous savez, quand le prophète s'adressait aux sahaba, il utilisait des termes simples. Il faisait en sorte que tout le monde comprend. Celui qui a un haut niveau de langue arabe et les Quraysh étaient afsahun nas, ceux qui avaient le plus haut degré de maîtrise de la langue arabe, ou que même le bédouin, le arabi, bon, le problème, enfin, pas le problème, mais les bédouins aussi, ils avaient un niveau de langue qui était extraordinaire. En fait, tout le monde était très intelligent, ils étaient très forts en langue. Mais même celui qui avait peu de connaissances de la langue arabe, mais que cette personne également puisse profiter de son enseignement. Et donc, demander à Allah Azza wa Jal, l'ilm nafi'a. Al-ilm nafi'a, c'est une connaissance qui nous est profitable. Parce que les savants disent que la connaissance qui était profitable, c'est la connaissance qui te protège de al-jahl, de l'ignorance. C'est la connaissance qui te protège également contre les pièges de shaytan, makr, de iblis et waswasa. Il y a des fois où shaytan te détourne à travers les bonnes actions. Il fait en sorte que tu exagères les bonnes œuvres. Te fait faire des choses qu'Allah n'a pas demandé et l'homme se perd dans les bonnes œuvres alors qu'il est bien intentionné. Ou alors, Shaytan repousse les limites du haram. Non, ça c'est pas grave ça. Avant c'était haram, mais de nos jours, regarde autour de toi. Regarde le contexte. Regarde tes frères qui sont dans tel péché. Donc si toi, tu fais tel péché, à notre époque, ce n'est plus considéré comme péché. Et quand est-ce que Shaytan arrive à jouer avec toi? C'est comme si vous prenez des baguettes, là, vous jouez avec, je suis obsédé par les mines en ce moment, les mines, vous mettez l'ail, vous montez, vous machin, il joue avec toi. C'est quand tu es jahil. Quand l'homme ne connaît pas sa religion, il se laisse bercer par Shaytan. En fait, Shaytan prend possession de sa réflexion. Et il t'emmène au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, concernant la religion, alors que la religion, c'est normalement sirat al-mustaqim. C'est un chemin tracé qu'on n'a pas le droit de sortir des limites qu'Allah a fixées. Une connaissance profitable, c'est une connaissance, un ilm qui te permet également de ne pas subir l'influence de Qurana al-Sou. C'est quoi Qurana al-Sou? La mauvaise fréquentation. Il y a des fois où on a un jeune qui a une bonne éducation de la part de ses parents. Il va à la madrasa, il a des professeurs qui lui donnent un bon enseignement. Il est bien encadré. Avec le papa et la maman, il est bien encadré. Avec le professeur, avec les professeurs de la madrasa, il est bien encadré. Mais quand il est à l'extérieur de le quartier, quand il est dans la rue, avec ses amis, c'est là que ses amis, ils vont tirer leur portable. À la maison, mashallah, on le protège de tout ce qui est mauvais. Visuellement, sur le plan audio également, pas de musique et ainsi de suite. Donc, on fait tout pour protéger son iman, sa foi, son iman. Mais quand il est avec ses amis dans la rue, ben son camarade va tirer le portable. Tu as vu la dernière vidéo porno là, qui circule sur WhatsApp? Et j'ai un collègue qui me dit, une fois il a pris des portables de ses élèves, ben il y avait une vidéo, excusez-moi, de ce genre de scène obscène, qui circulait sur WhatsApp entre jeunes. Et il était étonné que grande quantité d'élèves étaient en train, ils avaient dans leur carte mémoire, ils les regardaient, Wallah Musta'an. Donc, il y a des fois où toi tu protèges l'environnement, mais arrivé à l'extérieur, la personne peut être détournée par ses amis. Une mauvaise influence. Et il n'y a rien de plus attristant pour un père ou pour une maman que de faire des efforts pour protéger son enfant, pour lui donner une bonne éducation, de se rendre compte que lorsque l'enfant quitte la maison, ben il perd, il dilapide ses valeurs. Ça, c'est vraiment une grande tristesse. Pour protéger l'enfant de ces égarements qui viennent parfois des amis ou de mauvaises influences, ben c'est la connaissance religieuse. C'est-à-dire connaissance religieuse de quelle façon? Tu vas enseigner à un enfant Bukhari, Muslim, Ibn Kathir, quand il a 6 ans, 7 ans? Non! Qu'il connaisse qui est son Seigneur, dans un premier temps. Allimhu, enseigne à cet enfant ce qui lui est profitable. Là, ça nous ramène vers le hadith de Ibn Abbas, qui était assis avec le prophète, et le prophète, alayhi salat wa salam, lui donne des conseils, mais d'une grande simplicité, des phrases de 4 mots. Ô mon enfant, sache que tu dois pratiquer la religion d'Allah. Pratique la religion, Allah te protégera. Pratique la religion, Allah te gardera sous sa protection. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, demande à Allah. Lorsque quelque chose t'arrive, remets-toi à Allah. Des phrases simples. Sache que si tout le monde veut te faire du mal, mais si Allah est avec toi, personne ne te fera du mal. Sache que si les gens ils veulent t'aider, ils veulent te donner plein de choses dans la vie, mais si tu es dans la désobéissance et Allah n'est pas avec toi, personne ne pourra te donner rien de plus que ce qui t'est prédestiné. Des phrases simples, mais c'est la connaissance de base, c'est la construction du iman dans le cœur de l'enfant. De cette façon, on pourra expliquer aux enfants, avec le peu de ilm qu'on peut lui donner, les bases du ilm, qu'il ne doit pas écouter tel discours, parce que l'expliquer pourquoi est-ce que ça c'est haram. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas regarder quelque chose d'obscène? Pas parce que c'est interdit. Pas parce que papa et maman t'interdisent. Pas parce que ton fundi, ton molissa va dire que c'est haram. Va au-delà de ça. Essaie d'avoir un discours plus intelligent. Fais comprendre à ton fils qu'Allah t'observe à chaque instant et tu ne peux pas te permettre d'être dans une situation où Allah te voit et tu es en train de faire quelque chose qui est qu'Allah n'aime pas, qu'Allah a rendu haram. Essaie de développer cette intelligence spirituelle de l'enfant. Et avec le ilm, ce ilm qui est profitable, on est protégé, et pas uniquement quand on est enfant, même quand on est adulte des fois, hein, de Qurana al-Sou, de la mauvaise fréquentation. On va s'arrêter à la pour ce soir, Inch'Allah, parce que ce sont 4 thèmes à développer en détail, et on a pris pas mal de temps, et on peut pas bâcler, on essaie d'avancer correctement, on essaiera d'approfondir un petit peu plus la prochaine fois sur le ma'na, le sens de Al-Huda, le sens de Tuqa, et on va voir que ça se complète. Le sens de Al-Afaf, et le sens de Al-Rina. On va voir que celui qui a, qui a eu le amin des anges et que le doua a été accepté et qu'il a eu la guidée, il a la piété, la protection contre ce qui est mauvais et la comment on pourrait dire, al-rina, qu'il n'ait besoin de personne, qu'il se suffise que d'Allah et qu'il n'ait besoin d'aucune créature, c'est vraiment une personne qui va surfer au-dessus des vagues de la vie. Même s'il est pauvre, même s'il n'a pas de diplôme, même si dans la société, ce n'est pas celui qu'on prend en exemple à chaque fois, mais il aura une richesse intérieure qui lui permettra d'avancer dans les années de sa vie jusqu'à rencontrer Allah Azza wa Jal en toute quiétude qu'Allah nous accorde ses qualités. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khair.